C'est vrai que la question que, dont on parle ce soir, la question de la mort, comment vivre la mort, c'est pas une question que l'on aborde souvent. Et en particulier, moi j'ai plus très, parce qu'on peut traiter ça sous différents aspects, si vous voulez. On peut traiter ça sous l'aspect les étapes du deuil, par exemple, parce que c'est un aspect aussi intéressant. Moi j'ai plus traité la partie, en fait, le après la mort, hein, et comment quelle est la vision chrétienne à la fois de la mort et des morts, des personnes qui nous ont précédés. Et je pars ça, on va peut-être pas tout lire, mais en tout cas, travailler un peu là-dessus, vous pourrez le retravailler de votre côté, puis le méditer. Un extrait du catéchisme pour adultes des évêques de France, avant qu'il y ait le catéchisme de l'Église catholique, donc fait par en partie par plusieurs évêques, et puis promulgué par Jean-Paul II. Eh bien, les évêques de France avaient eu l'idée d'un catéchisme pour adultes, de façon à pouvoir expliquer la foi de ceux qui ne la connaissaient pas et qui voulaient s'approcher du Seigneur et qui voulaient découvrir, qu'est-ce que ça veut dire suivre le Christ. Et donc, quand j'aime bien utiliser ce livre-là, parce que même s'il est assez ancien. Parce qu'il est assez pastoral, c'est-à-dire que déjà il a été rédigé en français, et puis par des Français, donc des personnes aussi qui ont le souci que les mots soient, on sait bien, en France chaque mot compte, on dit un mot à la place de l'autre, tout de suite ça peut créer des émotions formidables. Et donc voilà, de travailler sur cette question de la mort, parce que d'une manière ou d'une autre, déjà nous serons confrontés à notre propre mort. Mais aussi, nous avons peut-être été confrontés, comme le disait Margot, à des morts dramatiques, hein, comme le cas de cette jeune fille, ou plus habituel, le cas de grands-parents, hein, et de dire, voilà, qu'est-ce que dit notre foi chrétienne sur l'après la mort, hein, et le rôle, d'une certaine manière, de la mort, qui est, non seulement qui fait partie de la vie, mais qui est le moment le plus important de notre vie. Et c'est important de dire que la mort se situe pour le chrétien, et les morts se situent pour le chrétien, c'est assez original, même par rapport à d'autres religions. Je pense au judaïsme, par exemple, pour qui les morts sont dans le séjour des morts, le shéol, hein, le shéol qu'on traduit parfois par les enfers, hein, donc le shéol, le séjour des morts. Alors que pour le chrétien, la personne qui n'est plus en vie, elle est encore partie, elle fait partie de la communauté. À tel point que ça vous est certainement arrivé d'aller dans des églises de campagne, et souvent pour rentrer dans l'église, on passe par le cimetière. Parce que, quand parfois il n'y a pas des personnes enterrées dans l'église elle-même. Parce qu'au fond, il y a ce sentiment et cette certitude de dire que l'église, non seulement c'est l'église des vivants, de ceux que nous sommes, nous, ici, mais aussi de ceux qui nous ont précédés. Et donc les personnes qui sont parties, qui nous ont quittés, sont encore présentes, sont encore membres de l'Église, hein, cette Église du ciel. Hein, et non seulement sont membres de l'Église, mais aussi agissent, et de même on peut agir sur eux, de même eux peuvent agir sur nous. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la communion des saints. Alors, peut-être certains ne sont pas trop familiarisés avec ça, mais la communion des saints, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de dire que, au fond, il y a dans le Christ, dans la foi, dans la prière, je peux vraiment et en particulier au moment de l'Eucharistie, où on prie pour les défunts, eh bien, je peux avoir un contact spirituel, je peux prier et demander aussi la prière. On demande la prière des saints en général, chaque Eucharistie, mais aussi on confie les défunts. Hein, donc, certains mystiques, hein, je vois notre fondateur qui était un mystique, disait, l'épaisseur d'un papier à cigarette entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas, hein, comme aussi l'enfance, et la comparaison a souvent été faite, de l'enfant qui... Et dans le sein maternel, ne pense pas qu'il y a une autre vie possible. Hein. De même, la personne qui est dans le monde physique dans lequel nous habitons, eh bien, ne pense pas ou ne voit pas le monde d'après. Et donc, nous croyons en la vie éternelle. Nous croyons que, et là, on va le voir, on va le lire, mais c'est très important, cette foi en la vie éternelle, elle est source d'espérance. C'est-à-dire, elle est source non seulement d'amour, mais elle est source d'action. Ce que l'on vit ici retentit dans l'éternité. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, ça donne à notre vie, et c'est pour ça que la mort n'est pas l'extérieur de la vie, c'est le moment le central, et la mort des autres aussi, parfois, est aussi centrale, comme on l'a vu avec ce témoignage. Eh bien, c'est un moment dans lequel, justement, on prend conscience de la densité de notre propre vie. Hein, que ce que l'on vit ici retentit dans l'éternité. Retentit dans l'éternité, c'est-à-dire que les actes que l'on pose, et particulièrement les actes d'amour que l'on pose, eh bien, d'amour désintéressé, nous croyons que ces actes-là retentissent dans l'éternité. Parce qu'il n'y a que l'amour qui rentre au ciel, c'est-à-dire dans la communion avec Dieu, et que ces actes d'amour contribuent, on peut dire, à la beauté à la fois de Dieu, à la manifestation de la beauté de Dieu. C'est très fort, parce que du coup, c'est... comment vous dire ça? C'est tout à fait une autre manière de voir déjà la mort en tant que telle, non pas comme l'ouverture sur le néant, hein, mais l'ouverture sur une vie, et sur une vie avec, et sur une vie avec d'autres. Il y a une communion après la mort, hein, une communion avec Dieu, et en Dieu, il y a une communion avec aussi nous qui sommes ici-bas. Donc, je trouve ça... Et c'est vrai que... La difficulté de perdre la notion de la vie éternelle fait que petit à petit, on perd la notion de l'espérance et on perd la notion du pourquoi vivre. Au fond, c'est assez progressif, mais et c'est assez violent parce que du coup, si on n'a plus d'espérance, c'est la porte ouverte aussi à une certaine violence intérieure, je veux dire, parce qu'on a besoin de sens. Et d'un sens qui aille justement, parce que la mort reste quand même un échec. Ça reste quand même un échec. Parce qu'on ne se pense pas mort. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne me pense pas mort. Je ne me vois même pas mourir. C'est-à-dire, c'est même pas quelque chose que j'envisage. Je me vois vivre pour toujours. Mais, alors, on le sait bien que cette vie terrestre, elle aura une fin. Mais on voit qu'on n'a pas été fait pour la mort. On a été fait pour la vie. Et quand Jésus nous dit, je veux que vous ayez la vie et la vie en abondance, ça veut dire ça, c'est qu'on a été fait pour la vie. Et que la mort reste quand même l'échec au niveau humain, et comme chrétiens, nous avons un regard tout à fait d'espérance. Non pas parce qu'on veut positiver psychologiquement, mais justement, en contemplant le Christ dans sa passion, hein, la semaine prochaine, c'est la semaine sainte, le Christ dans sa passion a vaincu la mort. C'est ça être chrétien, c'est je crois que l'amour de Jésus qui va jusqu'au bout est plus fort que le péché et que la mort. C'est ça, c'est le cœur, hein, ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme, c'est Jésus, hein, mort et ressuscité. Jésus, fils de Dieu, mort et ressuscité. C'est-à-dire vraiment, c'est le cœur de notre foi. Et du coup, la mort n'a pas le dernier mot. Ça, c'est vraiment capital. La mort n'a pas le dernier mot. Nous croyons que c'est l'amour qui a le dernier mot. Et que dans notre vie, l'amour aura le dernier mot. Et l'amour de Dieu et l'amour de l'autre aura le dernier mot. Et il n'y aura même que l'amour qui rentrera au ciel. Rien d'autre. C'est l'apôtre saint Paul, vous vous rappelez à ce passage, hein, la foi, l'espérance, la charité, je vous dis, ben, la plus grande, c'est la charité. Donc, c'est celle qui demeure, parce que c'est l'être de Dieu que d'être amour et communion de personnes. Alors, ce que je vous propose tout simplement... c'est qu'on prenne un petit temps déjà de pour le topo, et puis si vous avez des questions, sachant que je ne reviens pas de l'au-delà, donc ce sera forcément c'est pas que je viens témoigner tel Lazare, justement on a vu Lazare, l'ami Lazare. Lazare c'est une réanimation, parce que Lazare est mort, sinon ça se saurait. Mais bon, Lazare a vécu quelque chose, comme certaines personnes peut-être, hein, de l'après la mort, et de... Donc... c'est intéressant de dire, voilà, mais Jésus lui-même dit, même si quelqu'un revenait d'entre les morts, il ne le croirait pas. Il ne le croirait pas. Alors, la révélation, je vous propose de lire et puis de méditer tout simplement à partir de ce texte, comme ça, ça vous fait un petit support. Hein. La révélation comporte, en lien avec l'annonce du Christ ressuscité, la promesse de la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Que dit-elle donc du sort de ceux et celles qui ne sont plus de ce monde et demeurent dans l'attente de l'achèvement ultime du règne de Dieu? L'Ancien Testament, du reste, met en garde contre les pratiques d'interroger les morts. Il affirme toutefois que les morts ne sont pas anéantis, ils subsistent de quelque manière, mystérieusement, auprès de Dieu. La première chose à dire, nous avons en Christ ces promesses de la vie éternelle, j'en ai dit quelques mots, mais aussi les promesses de la résurrection de la chair. Là aussi, la résurrection de la chair, on n'a qu'un seul exemple qui nous a été transmis par les évangiles et puis les différents témoins depuis les apôtres jusqu'à maintenant, c'est l'exemple du Christ qui, dans sa résurrection, a eu ce corps glorieux, ce qu'on appelle le corps glorieux. C'est-à-dire le corps. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi la résurrection de la chair? Parce qu'on pourrait se dire, mais est-ce qu'il ne suffit pas, au fond, d'être avec Dieu, que mon âme soit avec Dieu et que ce soit, voilà. Bon, c'est très bien comme ça. Et moi, je trouve ça lumineux, là. La résurrection de la chair, ça fait partie de notre credo. Quand on dit le credo lors de l'Eucharistie, hein, ou lors de baptême, on dit, ben, je crois en la résurrection de la chair. Parce que nous croyons aussi que si l'on pense une plénitude d'amour et de joie, notre corps aussi y est associé. Et c'est toute la dimension aussi chrétienne du corps. C'est que le corps, quelque part, est associé à la gloire de Dieu, et c'est pour ça que saint Paul dira, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, hein? Donc d'avoir ce respect par rapport à son propre corps et au corps de l'autre, parce que je sais aussi qu'il est, jusque dans mon corps, je suis appelé à vivre de la vie éternelle, et à rayonner de cet amour du Seigneur au dernier jour. Hein? Donc ce témoignage sur la vie éternelle, vient au fond de l'expérience du témoignage de Jésus, hein, qui est revenu d'entre les morts aussi avec son propre corps. Maintenant, il y a un deuxième point sur lequel aussi j'aimerais méditer avec vous, c'est l'Ancien Testament met en garde contre les pratiques d'interroger les morts. C'est-à-dire, grosso modo, toutes les formes de spiritisme. Oui, la question du spiritisme, la nécromancie, le faire parler les esprits, toutes les formes de pratiques qui, d'une manière ou d'une autre, veut avoir contact avec un esprit de l'au-delà, veut avoir contact avec l'au-delà. Alors pourquoi est-ce que, quelque part, pourquoi est-ce que c'est... oui, on met en garde contre ces pratiques-là. De faire tourner les tables, de déplacer le verre, etc., etc. Alors on peut sourire, on dit ben, qu'est-ce que c'est ces trucs-là, jusqu'au moment où certains ont cette expérience de spiritisme et voient qu'il y a des choses particulières qui se passent. Premièrement, on ne sait jamais quel contact on a avec quel esprit on a un contact. Et donc la question du spiritisme, c'est que on veut avoir prise sur l'au-delà, en dehors de la foi. Vous voyez, on veut quelque part avoir une mainmise et un contact, ou alors ce qu'on appelle l'écriture automatique aussi, hein, ça c'est différentes pratiques. Hein. On veut avoir un contact avec un défunt, mais en dehors du Christ, hein, et par ses propres forces, par des techniques, etc. Et c'est là où on voit qu'il y a, il y a une limite, parce que, vraiment, on ne sait pas à qui, entre guillemets, on a affaire, parce que moi, je crois qu'il y a des choses qui se passent lors de séances de spiritisme, hein, de voyance, de toutes ces choses-là, vous voyez, de sciences occultes. Hein, j'y crois, oui, bon, je n'ai jamais pratiqué, mais j'y crois. Certains m'ont dit avoir pratiqué, et puis... avoir perdu le sommeil, par exemple, parce que justement, ils ne savaient pas du tout avec qui ils étaient. Hein, ou alors des choses qui étaient dites. Donc il faut quelque part y renoncer. C'est-à-dire de dire intérieurement, je veux que ce contact avec les défunts, ce soit un contact dans la foi. Ce ne soit pas un contact, même si je suis désespéré par la mort de telle personne, ou je veux savoir le sort de telle personne ou de telle autre. C'est dans la foi et dans la confiance dans la miséricorde de Dieu que j'accepte d'avoir ce contact avec les personnes qui nous ont précédés. La prière pour les morts, présente déjà dans le judaïsme, recommandée et pratiquée ensuite par l'Église, atteste qu'ils ont une certaine forme d'existence. Le Nouveau Testament a repris la symbolique juive d'un lieu où les morts attendent, mais il affirme que la mort permet une relation nouvelle avec le Christ. Ainsi, l'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères, qui se sont endormis dans la paix du Christ, n'est nullement interrompue. C'est intéressant, on parle d'endormi pour les morts. On dit, et vous avez peut-être déjà pour Lazare, il n'est pas mort, il dort. Parce qu'il y a cette certitude, cette confiance que un jour, nous allons pouvoir avoir un contact avec ceux qui nous ont précédés en Christ, que le Christ, au fond, vient au jour dernier, au jugement dernier, ressuscité et juger les vivants et les morts. C'est-à-dire, dans le Christ, il y a cette plénitude. Nous croyons que le monde a un commencement dans la Genèse, mais nous croyons aussi qu'il a une fin. Et donc, du coup, c'est intéressant de se dire que la relation que je peux avoir avec, je l'ai dit quelques mots, avec les défunts, elle ne s'interrompt pas. Elle continue dans le Seigneur, elle continue dans la prière, elle continue dans la vie de foi. Et ça, je crois que c'est... je crois que, par exemple, peut-être certains le font, qui est là, pour le coup, une pratique qui, au contraire, nous fait grandir spirituellement, de demander la prière des personnes qui nous ont précédés, d'invoquer les personnes qui nous ont précédés, dont nous croyons qu'elles sont déjà auprès du Seigneur, parce que, bon, on a on pense vraiment que ces personnes-là, voilà, d'une manière ou d'une autre, ont une vie qui, ont permis un accès à la plénitude de la grâce et à la communion avec le Seigneur. Mais voilà, de dire, est-ce que je fais appel dans la foi et dans la foi de l'Église et dans la foi dans les paroles du Christ à ceux qui m'ont précédé? Quelque part, je leur demande, c'est le rôle des saints, en tout cas, quand l'Église canonise, c'est qu'elle donne à une personne, cette personne-là, c'est un chemin sûr pour aller vers le Seigneur. C'est une personne qui vous aidera dans votre vie spirituelle et dans votre cheminement de foi. Alors, je crois que ça donne une grande espérance, justement, de dire que ce lien, il n'est pas interrompu, c'est un lien qui reste dans la foi, dans la foi de l'Église et puis dans la foi de ceux qui nous ont précédés. L'immortalité de l'âme, ça, d'abord, pour parler de lien avec les gens qui nous ont précédés, c'est la base, je veux dire, c'est l'immortalité de l'âme. En accueillant cette vérité qu'à la mort, la vie humaine n'est pas totalement détruite, qu'elle est transformée dans une communion nouvelle avec Dieu, l'Église soutient que subsiste après la mort un élément spirituel traditionnellement appelé âme. En relation avec le Dieu immortel qui l'a créé, l'âme est elle-même immortelle. Alors ça, je crois que c'est vraiment... parce que là, on voit bien, il y a deux positions. On voit bien parmi nos contemporains. Il y a ceux qui ne croient pas en l'immortalité de l'âme, et je ne parle pas de réalité de vie de foi, c'est-à-dire que l'immortalité de l'âme est aussi une question philosophique. Je crois que dans la personne humaine, il y a quelque chose qui transcende la matière. C'est ça que ça veut dire. On ne parle pas de foi en tant que telle, de révélation. Je crois qu'au sein de la personne humaine, l'âme qui est composée de l'intelligence, la volonté, la capacité de connaître, la capacité d'aimer, transcende la matière. C'est-à-dire, même si la matière tombe elle-même en loc et se dissout, je crois, cette réalité spirituelle habite le cœur de chaque personne humaine. D'autres diront non. Je crois au contraire que la personne humaine se réduit à la matière et que quand la matière s'effondre, c'est toute la personne humaine qui s'effondre. Il n'y a rien qui subsiste après. Donc vous voyez, vous avez deux positions philosophiques. Il y a les spiritualistes ou les spirituels qui disent, je pense à un Platon, par exemple, qui n'était pas, c'était sa philosophie, justement, qui disait au contraire, le vrai monde, c'est le monde d'après. Ça vous rappelle un peu l'étude de philosophie pour ceux qui ont fait un peu ou qui ont retravaillé les choses. Le vrai monde, c'est le monde d'après. Donc Platon, par exemple, Platon et Aristote, etc., vont dans le sens de dire, voilà, il y a une l'âme va au-delà du corps, va quelque part et subsiste après le corps, alors que d'autres disent, voilà, ça s'arrête. Je crois que par rapport à ça, alors comme chrétien, alors le fait d'avoir la foi aussi rajoute d'une certaine manière une dimension supplémentaire, mais c'est important, et ce qui fait souvent la difficulté avec des gens qui ne croient pas. Par exemple, le fait de ne pas croire à la vie éternelle change quand même beaucoup dans la vie tout court. Parce que, justement, même si je crois en la vie, même si je crois en l'amour, même si je crois en la beauté, etc., quelque part, il y a une forme de... Il y a une fin, puis il n'y a plus rien après. Mangeons, buvons, festoyons, de toute façon, après, c'est rideau. Alors, on peut faire du bien sûr, que des personnes, ce qu'on appelle matérialistes, dans ce sens-là, matérialistes, c'est-à-dire qui croient que la personne humaine est simplement un composé de matière, un amas de cellules, un amas ordonné de cellules ordonnées par le hasard et la nécessité, et non pas par un plan particulier d'une personne particulière. Et vous voyez tout de suite les conséquences que ça peut avoir en bioéthique, par exemple. Si je crois que la personne humaine, dès sa conception, porte quelque chose qui transcende la matière, je n'aurai pas le même regard sur l'embryon que si je ne le crois pas. Et donc, du coup, je crois que c'est de dire cette immortalité de l'âme... Alors là, dans une dimension de foi, en relation avec le Dieu immortel qu'il a créé, nous, quelque part, nous portons en nous-mêmes cette trace d'immortalité, cette trace d'éternité qui est un des signes de la création de Dieu, qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que précisément, on porte quelque chose de l'éternité qui habite Dieu, en nous-mêmes. Le mot âme est à entendre dans le sens utilisé par l'écriture et la tradition, à savoir comme le principe spirituel et vital de la personne humaine, source de son unité, et non comme une partie de l'homme à côté du corps. L'homme est corps et âme, mais vraiment un. Alors ça, c'est aussi un point qui est important. C'est-à-dire que mon âme, c'est-à-dire le corps, contrairement à ce que pensait Platon, le corps n'est pas la prison de l'âme. Oui, c'est pas, faut pas voir l'âme comme prisonnière à désirant l'au-delà et mon pauvre corps mortel et charnel me tire vers le bas. C'est pas la vision chrétienne en tout cas. C'est au contraire, c'est que corps et âme, je forme une personne humaine. Il y a une unité. Ce que je vis avec mon corps retentit sur ma capacité d'aimer, sur ma capacité de connaître, sur mon âme. Et ce que je vis spirituellement avec mon âme, eh bien, retentit aussi sur mon corps. Ce qu'on appelle en psychologie les maladies, comment on dit ça, c'est psychosomatique. Hein, psychosomatique, parce qu'il y a justement une unité entre l'âme et le corps. Il n'y a pas ce qu'on appelle le dualisme. Il y a une unité, et je crois que ça donne aussi une unité à notre vie. De dire, voilà, cette unité âme et corps, là aussi, nous donne une manière de vivre assez particulière, somme toute, parce que j'ai à respecter ces composantes de ce qu'est ma personne particulière. Et j'en profite aussi, pour pas parler d'autre chose, c'est la réincarnation. La résurrection n'est pas la réincarnation. Précisément à cause de ça. C'est que mon corps est à l'image de mon âme. Et mon âme à l'image de mon corps. Et il serait absolument impensable que quelqu'un vienne, qu'une âme vienne habiter un autre corps dont il n'a pas été durant la Terre au principe de vie, et que au contraire, je me réincarne dans un corps qui soit tout à fait étranger à moi. Parce qu'il y a cette unité entre les deux qui fait que... Alors, a fortiori, réincarnation, alors si j'étais sage, c'est une personne humaine qui est, voilà, plus avancée. Et puis si je n'ai pas été sage, je vais même jusque dans le règne animal, etc. Ce qui est absolument impensable. Je veux dire, c'est complètement impensable de penser qu'une âme qui est capable de connaître et d'aimer puisse habiter autre chose qu'un corps dont elle a été, au fond, le principe de vie. Donc, vous voyez, la résurrection, c'est « je garde ma personnalité au ciel ». Non, mais ça, je ne sais pas si vous avez jamais pensé ça. Alors, je garde ma personnalité au ciel. Et Jésus ressuscite avec son propre corps. La preuve, hein, voici, mets tes doigts dans les trous de mes mains, mets ta main dans...
Pas, il a quand même son corps glorieux.
Ah, il a un corps glorieux, mais quand même, il y a... C'est son corps.
Et du coup, on va avoir la même personnalité, vraiment.
Alors, aussi, est-ce qu'on va avoir un même corps? Parce que ça peut... Est-ce que si on est tout mince, on va ressusciter mince? Est-ce que ceux qui ont quelques kilos de trop ressuscitent avec des kilos de trop? Est-ce que... En même temps, je trouve ça très beau que le Christ... En même temps, c'est une autre réalité. C'est pour ça que les mots nous manquent, quelque part. Parce qu'on parle d'une réalité transcendante dont personne ici n'a l'expérience. Et donc, on n'a que le Christ. En même temps, c'est une autre réalité, mais en même temps, c'est vraiment son corps. Mais pour le toucher, il faut la foi. Pour toucher ce corps-là, ce n'est pas simplement un regard humain qu'il faut, il faut un regard aussi de foi. Hein, la preuve, vous voyez, par exemple, les témoins d'Emmaüs, hein, les témoins d'Emmaüs, ils le reconnurent à la fraction du pain. C'est-à-dire qu'avant, ils marchaient avec eux et ils leur commentaient les Écritures. Mais tu es bien le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci, etc. Tu es un peu déconnecté. Jusqu'au moment où ils partagent le pain avec qui seront ensuite les disciples de l'Emmaüs, et ils le reconnurent, et ils disparurent à leurs yeux, comme pour dire que l'Eucharistie va être le lieu, justement, hein, ce fruit de la terre et du travail de l'homme, va être le lieu aussi de la rencontre avec Dieu. Hein, on ressuscite, alors, en même temps, alors, est-ce qu'on garde sa même personnalité? Là encore, je n'ai pas d'expérience mystique particulière, mais je ne m'imagine pas avoir une... On garde la même intelligence, on garde la même capacité d'aimer, elle est purifiée quelque part, moi j'imagine ça, comme étant purifiée par l'amour de Dieu, comme étant mise dans l'amour et éclairée par la communion avec Dieu. Moi j'ai ça, moi je vois ça comme ça, mais je reste capable, je reste avec mon intelligence. C'est pas une autre intelligence, c'est pas une autre volonté qui c'est pas une autre âme quelque part qui serait autre que moi. Je veux dire que ça n'aurait aucun sens. Parce que, vous voyez, c'est tout à fait différent de philosophies asiatiques, par exemple. Certaines philosophies asiatiques croient que, au fond, on va se dissoudre dans le grand tout. Vous voyez, on va vers un grand tout et un panthéisme, en tout cas, un panthéisme, c'est-à-dire que toute chose est Dieu, et je vais vers toute chose, et je vais rejoindre ce grand flux d'énergie, hein, qu'est Dieu, et nous ne croyons pas du tout ça. Nous ne croyons pas du tout ça. Nous croyons que nous restons notre personnalité, notre âme, et notre personnalité, on le sait bien, est émue par notre capacité d'aimer et de connaître, reste, perdure. Nous existons vraiment. Alors, c'était intéressant de voir ça, parce que il y a eu un livre qui est sorti, entre un dialogue entre l'abbé de Solem, le père abbé de Solem, et le grand Dalai Lama. Donc voilà, et de dire, voilà, quelles sont vos visions un peu de la mort, vos visions de la vie, etc. Au bout de 4 heures d'entretien, le père abbé pose la question: est-ce que nous existons vraiment? Et l'autre de répondre: je n'en suis pas sûr. D'accord, ok. Donc, est-ce que vraiment, est-ce que tout n'est pas illusion? Est-ce que vraiment, est-ce que quoi, moi, comme personne, je n'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que, voilà, parce que je vais, le nirvana va être vraiment cette participation, bon, je connais mal, hein, ceux qui connaissent mieux pourraient me compléter tranquillement, mais cette participation à un grand tout, mais et dans lequel je vais me dissoudre quelque part, auquel je participe, et chaque chose est Dieu, et donc du coup, et Dieu est dans chaque chose. Donc nous croyons que que Dieu est un Dieu personnel, et que la personne est faite pour la communion avec la personne, qu'elle soit humaine ou divine. L'amour, c'est une communion de personnes. Et il n'y a pas de communion avec un animal, même si nous avons a priori un chat tout à fait sympathique ou qui fait l'objet d'attention d'un certain frère. Mais bon, il n'y a pas de communion avec, par exemple, les animaux. Il n'y a pas de communion comme entre personnes. Il y a une relation, oui, mais il n'y a pas de communion. Hein, de même avec les végétaux, avec les minéraux, etc. Donc, la personne est faite pour la personne. Elle est faite pour... Et qu'elle soit personne humaine ou qu'elle soit personne divine. Donc nous demeurons dans l'éternité avec aussi les actes que nous aurons posés. Et puis d'où l'importance de la conversion. Hein, si on est dans ce temps de carême, c'est de se dire, justement, ce temps de conversion à l'amour, ou de conversion intérieure, où je demande au Seigneur de venir purifier mon cœur pour que c'est parfois ces blessures, ces manques d'amour, etc., je ne les retrouve pas quelque part au ciel, parce que j'en sois... Mais aussi, alors, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est la connaissance de Dieu que j'ai sur terre, évidemment, me donne une communion bien plus plénière dans l'au-delà. Parce que précisément, j'aurais pris du temps, j'aurais pris pour connaître qui est le Seigneur, et ce développement de la connaissance de Dieu entraînera, évidemment, les saints ont une communion, même si chacun a une communion plénière, mais il y a une communion surabondante des saints, parce que leur vie a été en fonction du Seigneur. Donc, quelque part, c'est ça. Ce que les actes, encore une fois, que je pose ici-bas, prépare cette communion, mais c'est très beau, c'est extraordinaire, ça prépare ici-bas la communion que je vais avoir. Travailler sur la parole de Dieu, le temps de prière, le choix d'une... Tout sera mis, encore une fois les mots nous manquent, mais tout sera mis sous le regard de Dieu et dans l'amour de Dieu. Et donc ça, je crois qu'on en a peu idée, parce que voilà, on n'est pas allé dans l'au-delà, mais en tout cas, cette immortalité de l'âme, je trouve, nous aide beaucoup, en tout cas, ça donne une espérance. C'est pas terminé, c'est pas bon, rideau. Ensuite, je termine pas, je vais avancer un peu. Le jugement particulier, c'est assez intéressant. Au moment de la mort, l'existence de chaque homme est placée sous la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu éclaire tout ce qui a été vécu. C'est ce que l'on appelle le jugement particulier. Le jugement particulier, il concerne chacun au moment de sa mort, n'attend pas la fin des temps. Il détermine la situation, entre guillemets, intermédiaire, dans laquelle se trouvent les défunts, avant le jugement général, où la vérité sera faite sur la vie et l'histoire de l'humanité entière et la résurrection des morts. Chacun est mis par Dieu en face de sa vérité. Le jugement sauveur, pour ceux qui auront accueilli les paroles du Christ, pour ceux qui auront fait le bien, le jugement de condamnation, pour ceux qui auront fait le mal, il n'y a rien d'arbitraire et consacre la valeur de toute vie. Alors vous voyez, là aussi, parfois, c'est difficile de parler de jugement. Hein. On est un peu dans... On veut bien un Jésus un peu bisounours et puis tout gentil. Et que le mot jugement, avec le mot jugement, parfois... mais c'est ce qui fonde la dignité aussi de notre vie. C'est qu'on est capable de poser des actes et que ces actes sont capables d'aller dans le sens du bien ou dans le sens du mal. On est capable d'un choix, tout simplement. Et je crois que c'est beau que au fond, après la mort, on sera mis sous le regard de Dieu, Et on accueillera dans la miséricorde, alors soit on accueillera la miséricorde, il y aura une vérité sur notre vie. Et que c'est l'amour de Dieu qui fera la vérité sur notre vie. Et soit on accueillera la miséricorde de Dieu, parce que du coup on verra aussi non, tant les actes d'amour que les actes de non-amour, soit on accueille la vérité de Dieu et dans l'humilité et la miséricorde, et c'est le chemin vers le salut, soit on quelque part, il y a une forme de crispation, il y a une forme de rejet, mais, et de rejet de Dieu, encore une fois, de rejet de Dieu volontaire et conscient. C'est-à-dire vraiment, on connaît qui est Dieu, on sait qui est Dieu, mais je le rejette de façon volontaire et consciente. Il faut quand même, il en faut beaucoup pour ça. Donc, je crois que c'est important de dire que cette dimension de les actes, en ce sens-là, les actes que j'aurais posés m'aident aussi dans cet accueil. Si j'ai accueilli le Seigneur, ou en tout cas, je me suis efforcé de l'accueillir, et que malgré, bon, chacun en est au niveau spirituel là où il en est, mais en tout cas, j'ai pas eu une opposition frontale avec lui, etc. Et sachant qui il est, c'est vrai que ce sera quand même beaucoup plus facile de l'accueillir aussi lorsque viendra le jugement pour nous, lorsqu'on aura à répondre de notre vie. Et le fait d'avoir à répondre de notre vie, eh bien, c'est un acte d'amour, de dire que votre vie, mais vous en êtes responsable. Et que le Seigneur ne fait que, vous remettre sous sa lumière d'amour, pour que vous soyez accueillis humblement. Et justement, c'est pour ça, entre autres, qu'on prie pour le moment, qu'on dit, prie pour nous maintenant et au moment de notre mort, qu'on s'adresse à la Vierge Marie. C'est justement pour ça, c'est parce que le moment de la mort est un moment crucial. Et c'est important de se préparer à la mort. Et de demander aussi, parce qu'on prépare ce moment de la mort est une rencontre pour le chrétien. La mort n'est pas d'abord une coupure, c'est d'abord une rencontre. C'est d'abord un face à face. C'est pas le saut dans le vide. Vous comprenez? Donc c'est vraiment important. Hein. C'est et donc en fonction, mais là vous vous rappelez du texte en Matthieu 25, hein, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah ben Seigneur, donc vous vous rappelez un peu le passage de cette parabole où justement un roi appelle un peu ses serviteurs et il les met donc à droite et les autres il les met à gauche. Et bien ils disent voilà à ceux qui ont accueilli, ça, il y a une séparation, ceux qui ont accueilli la parole de Dieu, ceux qui, et alors ils demandent mais comment Seigneur nous t'avons servi? Eh bien j'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité, hein. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire que le contact avec le plus pauvre va être un lieu de salut, va être un lieu de rencontre avec le Seigneur, et ce contact avec le plus pauvre, pas forcément la personne marginale, nous on passe tous par des moments de pauvreté, hein, mais il y a quelque chose qui a à voir avec l'éternité dans la rencontre avec la personne la plus pauvre. Et donc, venez, et ceux qui, au contraire, n'ont pas accueilli, qui sont restés enfermés sur eux-mêmes, parce que c'est ça, l'enfer, c'est d'abord cet enfermement sur soi-même, ce repli qui est en nous. C'est en nous, je pense que ça, c'est une réalité, c'est en nous. Ce repli sur nous-mêmes, qui fait que voilà, on ne voit même plus. Hein, c'est le riche et le pauvre Lazare, cette autre parabole. Hein, c'est le riche et le pauvre Lazare. Hein, voilà, il y a le riche qui a à sa porte, hein, Lazare, etc., qui aurait bien voulu manger les miettes qui tombaient du festin et on ne l'a même pas vu. On ne l'a même pas vu. Donc, je crois que c'est c'est là où c'est très fort, justement, cette vision chrétienne, de dire de celui, quelque part, le contact avec Dieu, l'éternité va dépendre d'ici-bas. L'éternité va dépendre d'ici-bas. Et de mes actes d'ici-bas. Et ce qui, moi, je trouve extraordinaire. Moi, je trouve que ça donne une profondeur à notre vie. Ça donne une amplitude. Moi, vraiment, qui est presque vertigineuse, parce qu'on se dit... et en même temps, cette certitude de la miséricorde de Dieu, tu vois, c'est cette certitude que le Seigneur, ben voilà, parce qu'aussi, on aura eu recours à la miséricorde de Dieu, parce qu'aussi, on aura fait confiance dans la miséricorde de Dieu, on la recevra. Parce qu'aussi, on aura pardonné, on aura accueilli le pardon, parce qu'on dit, mais tous ceux qui ne croient pas. La question, tous ceux qui ne croient pas. Alors, s'il ne s'agit pas, l'Église a très clairement dit, eh ben, déjà, en s'appuyant sur la parole de saint Paul à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et le plan de Dieu sur s'il y a une prédestermination, c'est d'avoir une vie avec Dieu pour toujours. Maintenant, ceux qui n'ont pas la lumière de la foi ont toujours la lumière de leur conscience. Et ça, la lumière de la conscience, c'est une lumière qui habite toute personne humaine. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité, son milieu social, il y a la lumière de la conscience. Et donc on voit que la personne sera sauvée dans le Christ, mais parce qu'elle aura été fidèle à cette lumière intérieure, qu'elle aura ben, voilà, ce face-à-face avec le Seigneur qui sera aussi possible. Mais en revanche, si j'ai été contre une lumière intérieure, volontairement, alors que j'avais identifié comme une lumière intérieure qui m'était donnée, et je vais contre ça, évidemment, ça a des conséquences. Alors, soit ensuite j'en demande pardon, soit... Bon, vous voyez, c'est... Nos vies, nos actes portent des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres. Hein, donc je crois qu'il faut vraiment demander au Seigneur cette grâce particulière. Quoi. Donc... Ensuite, j'aimerais bien qu'on parle de la question du purgatoire, et puis ensuite le ciel et l'enfer, mais non, voilà, c'est du boulot. Ça va jusqu'à présent, parce que c'est...
La conscience vient de Dieu, en fait.
Oui, c'est la lumière de Dieu dans chaque personne humaine.
Même chez les morts.
Toute personne humaine. Des questions, parce que je sais que ce n'est pas des thèmes faciles, et ce n'est pas des thèmes dont vous avez entendu parler, peut-être, parce qu'on ne prêche plus là-dessus. Oui.
Le jugement par rapport à la mort, quand on est brûlé, quand on a les membres découpés, parfois dans un charnier,
oui.
Quel est le corps qui ressuscite dans ce cas?
Ah, oui, ça, c'est pas un problème, ça. Donc, Dieu qui. il y a la question de la crémation aussi, la question de la crémation, par exemple. Hein. La crémation, alors. C'est Dieu qui nous a créés de rien. C'est là où je crois qu'il faut rentrer dans d'autres catégories, parce que c'est pas quand on va récupérer les os. De la personne, non, ça n'a pas de sens. Quoi. C'est, il crée de rien. La création ex nihilo, c'est-à-dire de rien. Il crée tout de rien. C'est une des caractéristiques de Dieu. Donc, le fait, ce qui va subsister, c'est notre âme. Alors, il ne faut pas se dire, bah, comment est-ce qu'il va faire pour récupérer le tibia, le péroné, le machin.
Le corps est un spécial de l'âme.
Oui.
Quel est le corps, de quel corps on parle à ce moment-là?
Alors, je parle de notre corps, c'est-à-dire que notre corps, la mort vient, ce qu'on appelle, notre corps est un avec notre âme, il y a une unité corps et âme. La mort établit ce qu'on appelle un état de violence, c'est-à-dire que le fait d'être séparé de notre corps, c'est violent pour notre âme. Et le fait d'être séparé pour notre âme de notre corps, c'est violent, et pour le corps de l'âme, c'est aussi violent. C'est cette séparation qu'est la mort. Donc, le corps, notre corps mortel, va terminer en poussière, bon. L'âme demeure. À la résurrection des morts, nous ressuscitons avec un corps qui transparaît de la lumière du Seigneur. Ce qu'on appelle le corps glorieux. Mais là, encore une fois, je n'ai pas beaucoup... qu'un seul exemple, c'est Jésus. Et oui. Oui, c'est ça, c'est la résurrection de la chair. C'est ce qu'on appelle la résurrection de la chair. Ça, oui. Et moi, je trouve une chose, ça paraît, on se dit, mais comment est-ce qu'il va faire, grosso modo? Parce qu'on se dit, s'il y a un bonheur parfait, je ne l'imagine pas sans mon corps. Oui, s'il y a un paradis, je ne l'imagine pas sans mon corps. Quelque part, l'âme sans le corps est incomplète. Oui.
Est-ce que soit il y a une prédestination.
Oui.
Non,
c'est sûr. Puis elle ne sera pas la même ensuite avec le vieillissement. Bah, pour un moment donné, je veux dire, on les appelle souvent des anges. Hein, il y a le carré des anges, hein, c'est ce que souvent on emploie ce terme-là. D'une certaine manière, il arrive au paradis d'une certaine forme de virginité, quoi. Donc, je ne vois pas trop pourquoi il n'y a pas eu d'acte posé, il n'y a pas eu de. Bon, je crois qu'une personne qui me. On croit que c'est une personne. C'est une personne d'abord. Hein, une personne. Du coup, il peut y avoir un enterrement. Et puis, même en ce moment, c'est aussi intéressant, c'est toujours très intéressant ces questions-là. On peut même l'inscrire sur le livret de famille civil. On ne peut pas être baptisé parce qu'on ne peut pas baptiser un mort. Par définition, mais il est inscrit sur le livret. C'est-à-dire que nous croyons qu'il sera avec Dieu, quoi, grosso modo, parce qu'on ne voit pas de raison objective contraire à ce qu'il ne soit pas avec Dieu. Mais il sera avec sa personnalité d'enfant, de mort-né, avec ce qu'il est. Bon, il a une âme, une intelligence qui n'a pas pu s'exercer, une capacité d'aimer qui n'a pas pu s'exercer, mais il y a une potentialité qui est là et qui ira vers le Seigneur. Oui.
On parle de la vie. La vie sur Terre, tu as un pèlerinage.
Oui.
Est-ce que la vie, est-ce qu'on continue à évoluer, à grandir?
Ah. Alors, ça c'est intéressant ça. Est-ce qu'on continue à. Est-ce qu'il y a encore un cheminement après la mort? Ça, je ne sais pas. Je pense que. En tout cas, ce qui est clair, c'est que. L'amour de Dieu nous rendra, bon, il y aura une plénitude, parce que c'est la définition du paradis, une plénitude dans l'amour de Dieu, où la contemplation, la communion, la contemplation avec notre intelligence et l'amour avec notre volonté de Dieu nous rendra une. Mais je crois aussi qu'il peut y avoir une forme de progrès. Bah, quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit par exemple, je passerai mon ciel, vous connaissez la phrase, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. D'une certaine manière, elle dit une progression. Elle dit qu'il y a une activité. Les morts ne sont pas, les âmes ne sont pas inactives. Mais en Dieu, alors. Oui. Oui.
C'est-à-dire que l'humain vit dans une espèce de cycle de transformation, et le fait de sortir de la vie humaine, c'est justement quelque part rejoindre un corps qui est à la fois l'hier, le présent et le lendemain.
Oui, pas. Oui, de temporalité. De ce point de vue-là, oui, mais on peut dire dans la capacité d'accueillir Dieu. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avant et d'après, donc là aussi, cette notion du temps, parce que l'avant et l'après demandent la matière, tout simplement, et quand il n'y a plus de matière, il n'y a plus d'avant et d'après. Mais en même temps, là, c'est une opinion personnelle, alors, encore une fois, c'est pas de cheminement comme nous, hein, merci pour l'intervention, comme nous on l'imagine, mais quand même une croissance dans cette capacité. On va d'émerveillement en émerveillement, vous voyez, c'est de plénitude en plénitude. C'est pas. C'était une béatitude dynamique. C'est pas une béatitude statique. Voilà,
c'est. Ce que j'aime du tout dans cette notion de progression après la mort, c'est que, étant donné qu'il y a une relation avec Dieu, ça sous-entendrait aussi que Dieu lui-même, quelque part,
non, de ma compréhension.
Oui,
alors, Dieu ne peut pas évoluer, ça n'aura pas de sens. Oui, oui.
Oui. Il me semble qu'on parle du jugement dernier, c'est qu'il y a une date de jugement.
Dernier, le dernier. Mais là, on parle du jugement. Au jugement dernier, ça sera dernier.
Et donc, autant qu'on est mort, vous n'avez pas encore jugé, vous savez, et bien, à ce moment-là, vous savez qu'on est encore dans le temps, dans cette temporalité, même si.
On ne peut pas dire une temporalité, parce que Dieu n'est pas dans une temporalité. Mais.
On est encore dans le temps, on est encore dans le temps.
Bon, voilà, là, on, oui, là, je crois que les, là-dessus, un peu, oui, de, oui.
Le fait qu'il y ait un purgatoire,
oui.
Il y a une évolution de l'âme entre le moment où le purgatoire,
oui.
Mais aussi
oui.
Des gens oui. Et on parle de deux jugements, si je me souviens
oui.
Bien, le jugement particulier de l'âme et ensuite le jugement dernier.
Oui, oui, voilà, ça, c'est ce qui est marqué ici. En tout cas, c'est tout à fait clair. Le fait, par exemple, c'est intéressant, il y a une évolution, le purgatoire. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Ben, vous lirez tout à l'heure, mais c'est quoi le purgatoire? C'est un état de l'âme, c'est des états de l'âme. Un état de l'âme, merci, ça me donne une bouée de sauvetage. C'est un état de l'âme où la sortie du purgatoire, c'est la communion plénière avec Dieu. Mais l'âme a besoin de se purifier intérieurement, de purifier sa capacité d'aimer. Et qu'est-ce qui va purifier l'âme de sa capacité d'aimer? C'est déjà là, le désir de Dieu, je veux dire, le désir de le voir face à face. Donc il n'y a pas une plénitude, comme pour les saints et ceux qui sont dans le paradis, une plénitude de communion, mais il y a déjà un début de communion, et c'est cet amour de Dieu qui va purifier l'âme. Au fond, il n'y a que l'amour qui purifie, même ici-bas. Donc, et dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a un état de l'âme qui évolue entre le purgatoire et le paradis, justement, quand, parce qu'il n'y a que l'amour qui rentre au ciel. Il n'y a que l'amour qui rentre au ciel. Il n'y a rien d'autre.
Donc on va tous au purgatoire.
Ah, ça, je ne sais pas si c'est une confession personnelle, mais disons, en tout cas, oui. En tout cas, oui. Allez, les martyrs, ceux qui ont montré un amour désintéressé jusqu'au don de leur propre vie pour le Christ, on estime, en tout cas à juste titre, qu'il y a, vu la qualité d'amour qu'ils ont manifesté à ce moment-là, ben c'est directement face à face. Mais pour l'immense majorité, il y aura un temps de purification. Alors, ce temps de purification, soit il se passe sur Terre par la conversion, hein, la conversion intérieure, justement, c'est le temps de carême, c'est intéressant. Le temps de carême, c'est vraiment ça, c'est je veux travailler sur moi-même avec la grâce de Dieu pour arriver à une capacité d'aimer et de plus en plus désintéressée. C'est le combat spirituel que chacun d'entre nous... Maintenant, quand on a, c'est pour ça, entre autres, qu'on demande d'être libéré d'une mort soudaine. Parce que justement, dans l'idée de la mort soudaine, on n'a pas le temps de se préparer. Et le fait de la préparation, et on reçoit la miséricorde du Seigneur, on demande au Seigneur sa grâce, nous aide justement à quelque part, à anticiper cette purification. Hein, donc, oui, oui. C'est un état de l'âme. C'est là où je crois que les mots nous manquent. C'est un état. De même, l'enfer n'est pas un lieu. Il ne s'agit pas de lieu. De même, le paradis n'est pas un lieu. C'est un état. Oui.
Pardonnez-moi, parce que j'ai des connaissances historiques pas très précises.
Oui.
C'est pour ça que le purgatoire a été institué au 3e, 4e siècle. Parce que justement, en fait, les chrétiens étaient paniqués dès que chacun de leurs actes pouvait les conduire en enfer.
Oui, oui, oui. Oui. En fait, ça, progressivement, je crois qu'il y a eu une prise de contact. On peut lire ce qui est dit là sur le purgatoire. Vous voulez qu'on lise? On peut lire là, cette partie-là, parce que c'est aussi. Il est probable qu'on se donne rendez-vous au purgatoire. Pour parvenir à la contemplation, à cette contemplation de Dieu, une étape de purification appelée purgatoire peut être nécessaire. Il ne s'agit ni d'un lieu ni d'un temps. On peut parler plutôt d'un état. En tout cas, le purgatoire est bien une peine n'est pas à concevoir comme une punition par laquelle Dieu se vengerait en quelque sorte de nos infidélités. La communion avec Dieu dans laquelle nous introduit la mort nous fait prendre conscience douloureusement de nos imperfections et de nos refus d'aimer et du besoin de nous laisser purifier par la puissance salvatrice du Christ. C'est Dieu lui-même qui purifie et transforme l'âme. Mais la tradition de l'Église catholique affirme que ceux qui sont au purgatoire bénéficient des prières et des supplications adressées à leur faveur, à Dieu par leurs frères, et aussi de l'intercession des saints qui sont introduits dans la béatitude de la vision de Dieu. Donc c'est intéressant de voir ça, de dire que C'est un temps, alors je crois qu'il y a une prise de conscience progressive de cet état de l'âme, de dire voilà, de passer de... parce qu'on a besoin de cette purification intérieure, de cette purification qu'apporte l'amour, de passer du tout au rien et de dire la grandeur de Dieu, c'est vrai ce que tu dis, la grandeur de Dieu et puis ce que nous sommes avec nos misères, nos fragilités, etc. Du coup, est né dans l'Église et dans la foi de l'Église, progressivement, cette notion de dire il y a un état intermédiaire, il y a un état de purification, il y a un état de... où c'est l'amour qui vient bon, ben, me libérer, me... Ce qui est quand même très rassurant aussi. Parce que s'il fallait une pureté d'amour totale pour rentrer dans la communion plénière avec Dieu et on connaît nos fragilités, ben c'est un côté un peu désespérant. Quelque part, le purgatoire est aussi une miséricorde. C'est aussi une miséricorde. Vous avez une autre question? J'ai vu les bras qui se levaient. Oui.
Je voulais juste savoir, pour Élie, Marie, en fait, comment ça se passe là? Parce que eux, ils sont un peu envolés comme le pigeon de Luxembourg.
Qui est la Vierge Marie, c'est ça? Élie Marie, oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le cas. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc la Vierge Marie, bon, c'est intéressant, la Vierge Marie, justement, comme personne humaine, c'est une personne humaine, la Vierge Marie. Elle n'est pas personne divine, elle est personne humaine, de notre race, de notre sang. La Vierge Marie est celle qui nous précède. Qui a ressuscité, il y a deux exemples avec de résurrection de la chair, le Christ et la Vierge Marie. Elle nous précède dans le royaume et nous indique le chemin. C'est pour ça que c'est beau d'avoir cette communion avec la Vierge Marie, cette prière de la Vierge Marie, nous aide justement à prendre conscience progressivement de ce cheminement. Alors, là encore une fois, ils sont Élie qui est parti dans un char de feu, roue de feu vers le Seigneur, bon... Et puis, à tel point que quand le Christ est venu, on disait, mais est-ce que c'est Élie qui doit venir? Et puis la Vierge Marie, dans son Assomption, a été auprès du Seigneur, comme dans l'état où nous serons au jugement dernier, avec son corps et son âme. Nous sommes donc invités à la contempler, justement, parce qu'elle est celle qui nous montre ce vers quoi, ce signe d'espérance que Dieu veut avoir le dernier mot dans notre vie, que l'amour de Dieu aura le dernier mot. Donc c'est en ce sens-là que la Vierge Marie est un soutien. J'ai conscience que ce n'est pas une question facile, des questions simples, dont vous n'avez peut-être pas beaucoup l'habitude d'entendre, et sur lesquelles on ne prêche pas non plus beaucoup, malheureusement, alors que c'est une question qui nous concerne tous. On est chacun, personnellement. Donc je crois que c'est important de dire, dans ce temps de carême, cette semaine sainte, on va contempler la mort de Jésus et sa résurrection à Pâques, ben de prendre conscience aussi, c'est quelque part notre propre mort et notre résurrection qu'on contemple.